Jolène et Amiel se tiennent debout, sur fond de la marina bas du fort, devant l'anneau vitre réservé au zodiaque de la police. Ils aperçoivent le bateau en approche, inquiets, relisant les brefs textos qu'ils ont enchaînés et écoutés et échangés. Jolène, tu rentres quand, patron? On a besoin de faire le point. Valérie, je suis en mer, j'arrive au port dans 3 minutes. Amiel, on attend, on t'attend sur le quai. 17h33, Marie-Douce s'est levée alors que Valérie effectue les ultimes manœuvres pour s'amarrer entre un voilier et un chalutier. Elle observe avec étonnement les deux policiers sur la digue. « Papa et maman sont venus vous chercher ?» Valérie, amusée, lance la main en direction d'Amiel. « Oui, la police est une grande famille. » Amiel et Jolène enroulent la corde autour du plot d'amarrage sans lâcher la journaliste des yeux. « Vos adjoints vont se demander ce que je fais là, » ajoute Manou. « Je ne voudrais pas vous mettre dans l'embarras. » Le commandant hausse les épaules. La coque du Zodiac écrase les bouées suspendues contre la digue. Le bateau tangue une dernière fois, puis se stabilise. « Ne vous souciez surtout pas de moi. Je suis un grand garçon. » Message reçu. La journaliste n'a pas l'air particulièrement inquiète. Elle enjambe le bastingage, atterrit sur le quai, gratifie tour à tour Jolène, Amiel et Valérie d'un regard de défi. S'éloigne à pas pressés, puis disparaît derrière le cube de verre de l'aquarium. Le commandant met quelques secondes supplémentaires à rejoindre la jetée. « Faut qu'on se parle, patron, » insiste Jolène. Amiel acquiesce. Valérie jette un regard autour de lui. Les terrasses du port commencent à peine à se remplir. Les touristes débarqueront dès la nuit tombée, attirés comme des moustiques par les lumières artificielles du port. Ok, on s'installe et on débriefe. 18h. Les trois policiers se sont assis autour d'une table isolée. Privilège de flic, Amiel connaît le barman de Coco Café. Il leur apporte une bouteille de rhum Bologne, quelques acras et des balouis frits. Jolène est la seule à se servir un verre pour accompagner la cigarette qu'elle vient d'allumer. Elle répète fidèlement à Valérie ce que Toussaint Bonaventure vient de leur annoncer. Le cheveu retrouvé sous la tente est le sien. Il contient des traces de crack et d'alcool. Le commandant enfonce son fedora en visière pour affronter le soleil rasant de fin d'après-midi. « Impossible! Je ne me suis pas accroché de cette tente! » Quelque chose a forcément foiré dans la procédure. « Vous avez interrogé Musart et le bif? » On a cavalé ensemble sous l'appui pendant des heures. J'ai peut-être perdu un cheveu. Il est tombé sur leur uniforme et ensuite sous la tente. Un tel concours de circonstances semble si improbable que Jolène et Amel n'ajoutent rien. Musin et Levif ont 40 ans de boutique à eux deux. Ce sont des professionnels fiables, sérieux, tout autant que le commandant Cancel. Et on ose ajouter, Jolène, une voix mal assurée, les résidus de crack et d'alcool. Valérie hésite. La bande noire de l'ombre de son chapeau barre son visage. Il fixe ses deux adjoints. Depuis 6 mois que l'on travaille ensemble, m'avez-vous déjà vu venir travailler sous l'emprise de l'alcool ou d'une quelconque drogue? Jolène et Amiel échangent un regard. Ils sont d'accord, Valérie est un patron exemplaire, ponctuel, modéré, apprécié. Avant les révélations de Toussaint Bonaventure, il les considérait comme un chef sans la moindre faille. Alors, poursuit le commandant, cette prétendue histoire d'alcool et de drogue ne regarde que moi. Nous avons une sacrée collection de questions plus urgentes à régler avant. On la liste? D'un geste nerveux, le commandant retourne le set de table devant lui, sort un stylo et le garde un moment levé. On commence par Jacob Santa Maria. Il le baisse et écrit. 1. Pourquoi a-t-il refusé de retourner en Guadeloupe pendant 20 ans pour y retourner avant-hier? D'où son immobile, cette entreprise providentielle de bétonneur? 3. Pourquoi un homme d'affaires aussi expérimenté s'est-il laissé aussi facilement piéger? 4. Pourquoi sa maîtresse, Janes Jiménez, a-t-elle été assassinée à l'aube, il y a 7 ans? Une nouvelle coïncidence? 5. Pourquoi avoir déposé le corps de Jacob sur les marches des esclaves? 6. Qui est cet Anatole Seignevan? Mon ancêtre, il y a 8 générations, écoute, encore une coïncidence? Jolaine et Amiel lisent les mots de Valéric au fur et à mesure qu'il les écrit. Concentré, il parle peu, même si aucune table n'est occupée autour d'eux, à l'exception d'un vieux créole isolé plongé dans un magazine de mots croisés. « Tu as raison, finit par admettre Amiel. Passe-moi ton stylo, je poursuis avec Audrey Colombel. » Le capitaine retourne à son tour le set de table devant lui et commence à noircir la feuille vierge. 1. Est-elle une touriste choisie au hasard par le tueur, ou était-elle visée par une raison que nous ignorons? 2. Pourquoi avoir jeté le téléphone d'Audrey dans la forêt après l'avoir assassiné? 3. Pourquoi avoir déposé son corps sur la tombe du général Richepanse? 4. Pourquoi avoir pris le risque d'informer Évariste Pigeon qu'un meurtre allait être commis près de la cascade Parabole et attirer ensuite toute la police sur la soufrière? Pourquoi 5? Pourquoi avoir épargné Fabien Collin? 6. D'où sort la première ligne, cette agence de voyage bidon? 7. L'ancien compagnon d'Audrey est décédé dans un accident au petit matin, une coïncidence supplémentaire. 8. Qui a placé ce cheveu sous la tente? Désolé, pas trop. Jolaine prend le temps de croquer Anacra, de décapiter 3 balaous, de faire couler le tout avec une rasade de tea punch, avant de retourner à son tour son set de table. Oui, question. Ça va, vous ne me mettez pas trop à la pression, les garçons. Amiel fait tourner le stylo. Le capitaine griffonne d'une petite écriture nerveuse. 1. Comment Évariste Pigeon a-t-il pu savoir que le cadavre de Jacob Santa Maria était allongé sur les marches des esclaves? 2. Plus fort encore, comment un noir pouvait-il connaître le lieu où Audrey irait camper? 3. Plus fort, aura-t-il de nouvelles visions malgré son isolement total dans la prison? Jolaine semble avoir épuisé déjà ses questions. Elle paraît déçue de n'en avoir que 3. Regarde tour à tour Amiel puis Valéric et baisse son stylo, motivé par une soudaine inspiration. 4. Quel rôle joue Marie Douce, l'énervée, et son site à Canciel dans cette affaire? 5. Pourquoi le harponneur envoie-t-il à la presse une copie de ses courriers? L'île va-t-elle à nouveau s'embraser? Est-ce le but du meurtrier? Cette fois, avoue enfin Jolaine, je crois que je sèche. Elle Elle chuchote le stylo et fixe Valérie. Mes autres questions, je préfère ne pas les écrire. Par exemple, Jolène tire sur son stylo comme sur un mégot. Par exemple, pourquoi le harponneur t'a-t-il dans le collimateur, patron?
Dans le collimateur?
Oui. Cette carte de ton ancêtre, esclave d'abord, puis ce cheveu, il y a quand même de fortes chances que ce soit le tueur qui l'ait déposé.
Il me l'aurait arraché?
Oui, volé. Où il l'a trouvé, sagace Jolène? Je sais pas, mais comme disait Toussaint, c'est un fait avéré scientifiquement.
Valéric n'a pas l'air d'apprécier l'argument. Le bandeau noir de son chapeau descend maintenant jusqu'à ses lèvres.
Alors, puisque nous avons décidé de tout déballer, capitaine, je vais être franc moi aussi. Pourquoi un inconnu te harcèle-t-il sur ton portable? Comment y a-t-il eu accès? Pourquoi n'as-tu pas encore fait scanner ton téléphone par le service scientifique de la DZPJ?
Jolène bafouille, surprise par la contre-attaque.
Parce que je n'ai pas eu le temps, Valéric. Parce que ce type Joshua n'est qu'un pauvre geek qui s'accroche parce que... Excuse-moi.
Aucun des trois enquêteurs n'a entendu le vieux créole aux mots croisés se lever de la table la plus proche.
Je vous ai écouté. C'est vraiment le vouloir, sans vraiment le vouloir. Vous êtes pile policier?
Il hoche la tête, amusé.
Vous travaillez sur cette affaire dont tous les journaux parlent. Moi, je lis surtout les dernières pages, les mots fléchés, les sudoku. Enfin, vous voyez, et j'ai une idée.
Valéric regarde sa montre.
Jolène écrase la cigarette. Seul Amiel lui accorde une attention polie.
Une idée?
J'ai lu ce nom, Anatole Seguevan, dans plusieurs articles sur l'assassin de l'Aume. Et bizarrement, personne n'y a pensé.
Pensé à quoi?
Le presse Amiel.
Anatole, c'est un prénom qui vient du grec. Anatole. Il signifie soleil levant, ou aurore, ou orient. Dans la mythologie, Anatole est une des divinités des heures, celle qui personnifie l'aube.
Merde, glisse Valérie.
Bien vu, ajoute Jolène.
Le cruciverbiste se contente d'un sourire satisfait sans bouger.
Il y a autre chose, s'inquiète Amiel?
Ben oui.
J'excuse, mais reste que le vieux créole. Le nom de famille, Seguevan.
Eh bien quoi, Seguevan, s'énerve le commandant.
C'est une anagramme. Ce n'est sûrement qu'une coïncidence, mais Seguevan est l'anagramme de vengeance.